sia maledetta Maremma, sia maledetta Maremma e chi l'ama. Sempre mi trema il cor quando ci vai.
Malgré les cloches, le bruit de l'eau et des véhicules me parvenait de bas, de très bas. Mais il m'avait fallu amorcer à mon tour la descente pour comprendre. J'avais fermé les yeux, prise de vertige. Les lumières de Saint-Enimie semblaient briller au fond des entrailles de la terre. Je restais interdite, le souffle coupé. Le vieux berger, n'entendant plus marcher derrière lui, s'était retourné et m'avait vu figé sur place. Il n'avait pas prononcé une seule parole et poursuivait sa plongée aux enfers. Je n'avais pas le choix et, appuyant ferme sur mon bâton, je l'avais suivi. Voilà un petit passage qui peut-être vous met l'eau à la bouche pour savoir un petit peu comment Adrienne Durand fait toutes ses expériences dans un milieu extrêmement peu connu encore.
Alors, si vous avez envie de partir au pays des asphodèles dans le village de Rogue sur le plateau Sévenol, eh bien, lisez ce livre d'Adrienne Durand. Je crois que vous allez organiser une petite campagne, non, une soirée
de
signature.
Alors oui, j'aimerais encore peut-être donner deux informations concernant la librairie L'Inédite, qui est donc ouverte tous les après-midi de 1h30 à 18h30, qui a des beaux livres de Noël à vous proposer. Des éditions avec des photographies sur certains sujets concernant les femmes.
Et n'hésitez pas, parce qu'à la librairie L'Inédite, c'est toujours un moment de rencontre. Prenez votre temps pour aller choisir vos livres. C'est un grand moment de discussion aussi.
En tout cas, on vous attend avec du plaisir. Et on vous informe aussi que le samedi 9 décembre, de 14h à 17h, Anne-Lise Grovetti, qui est donc une femme auteure du canton de Neuchâtel, dédicacera à la librairie son dernier livre qui s'appelle Infiniment Plus.
Alors voilà, on rappelle rapidement les deux titres de ce soir. Evelyne, tu nous avais présenté.
Blond étaient les blés d'Ukraine de Marie Gagarine.
Et Annette.
Le pays des asphodèles d'Adrienne Durand-Tulot.
Merci encore mille fois d'être venue à notre rendez-vous du mois de novembre et à notre prochain rendez-vous. Au revoir.
Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui ont peur plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Vous êtes là du gospel dans la voix, elle y croit. qui joue fa libéré, qui joint et cardinal, qui mélange vie rose et image épinale, qui veut se faire du bien sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante bleu, soyez pas trop jalouse, mademoiselle voit du rouge, mademoiselle chante le blues, elle a du gospel dans la voix, elle y croit, mademoiselle chante le blues, oh, le blues, mademoiselle chante le blues.
Thank you.
21 jeunes partir au Brésil, quelle idée! L'attrait des pays chauds sans doute, de l'aventure, pour se rendre compte de la réalité de là-bas? Comme si on n'avait pas mieux à faire que dépenser du fric pour aller zioter des maigrichons qui se bougent même pas pour trouver du boulot et des fainéants. Oh, puis de toute façon, les jeunes, ils peuvent pas changer le monde. Et dire qu'il y a des parents qui laissent leurs gosses faire ce genre de voyage, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Le pire de nos jours, c'est que les jeunes, ils pensent même plus à leur avenir, ils pensent aux étrangers. Ah, la jeunesse n'est plus qu'elle était. Horreur et damnation de lire ces phrases. Et pourtant, paraît-il, c'est ce qu'on vous a dit? Comment se fait-il que ces phrases figurent dans la brochure que vous avez publiée en tant que jeune qui avait participé à ce voyage au Brésil dans le cadre de l'association Coup de main? Comment se fait-il que des phrases aussi ignobles puissent faire partie de ce que vous écrivez? Est-ce que vraiment on vous a parlé de ça avant que vous partiez?
Hélas, oui.
Ce texte, il a été écrit par deux des jeunes, Virna et Caroline, justement pour démentir ces propos qui sont tenus par beaucoup de gens, malheureusement. Quand on discute avec eux, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui disent des choses pareilles. Et ce texte, en fait, il a été écrit pour... Bon, c'est évidemment ironique, n'est-ce pas? Et justement
j'espère
pour,
que les gens l'auront compris.
Et justement pour démentir ce fait-là. Que l'image des petits Suisses richetos qui partent au Brésil pour aller voir les autres étrangers, pour aller voir les autres, pour aller s'intéresser aux problèmes des autres. Et c'est fait pour démentir ça.
Ouais, disons que ça traduit une certaine conception de l'aide au tiers-monde qui... date plus de la colonisation qu'autre chose, donc on a eu ce genre de réflexion, c'est pas du tout notre conception, et puis on a voulu en parler au début de notre brochure.
Parce que effectivement, c'est une façon assez inhabituelle de passer ses vacances que d'aller rendre visite à un pays, pas seulement dans le but de se bronzer sur les plages ou de profiter des souvenirs qu'on ne trouve pas chez nous, mais effectivement avec l'idée d'aller découvrir ce que vit un peuple dont on sait qu'il vit dans la misère pour une immense majorité d'entre eux. En tout cas, les Brésiliens, on sait qu'il y a à peine 10% de Brésiliens qui vivent bien, le 90% vivant dans des conditions souvent très dramatiques. Et donc, pour vous, c'était aller découvrir ces choses, mais en les vivant, pas seulement par l'intermédiaire des bouquins, des journaux ou d'autres témoignages indirects que vous pouviez avoir. Est-ce que vous avez vraiment eu la sensation que le fait de voir tout près, ça vous aidait à mieux comprendre, que c'est différent de lire un article de journal?
Ben justement, on a eu des témoignages de gens sur place et c'est surtout ça qui nous a beaucoup aidés parce que bon, on a été visiter une favelle, mais c'est clair qu'il y a toujours le malaise. On arrive dedans à 20 pour aller voir ce qui se passe, on se sent toujours mal. Mais je crois que ce qui nous a beaucoup apporté, c'est le contact avec les gens, le contact avec les Brésiliens. Enfin, pour ma part, en tout cas.
En tout cas, personnellement, la chose qui m'a beaucoup apporté d'aller sur place, c'est que je me suis rendu compte que les gens là-bas, sur place, luttent, et luttent d'une manière très, très forte. Dans chaque bidonville ou communauté qu'on a visité, il y avait à chaque fois des groupements très, très vivants, très, très engagés, et qui luttent vraiment pour changer leur situation. Et puis, ça, c'est disons qu'une idée que je n'avais pas avant de partir, en tout cas. Enfin, je me rendais pas compte, j'y pensais même pas en fait.
Et toi, Christophe, quelle était...
D'accord, en tout cas, ça nous amène beaucoup, je pense, sur trois plans. Déjà, ce que nous, on amène aux Brésiliens, ce que les Brésiliens nous amènent à nous. Et sur le plan personnel, l'ouverture d'esprit. Alors bon, on a passé un mois, on a vu des tas de choses et puis... Maintenant, on en parle à d'autres, c'était un peu ça le but du voyage aussi.
Oui, parce que vous aviez en fait un contrat en partant en voyage. Hein. Non seulement c'était des vacances particulières au niveau de ce que vous alliez découvrir, mais aussi de l'engagement que vous preniez au moment où vous partiez. Vous étiez tenu par...
Il fallait bien qu'on se rende compte que le voyage ne s'arrêtait pas au jour où on débarquait à l'aéroport, mais qu'il y avait un travail qui devait se continuer après. Et que notre boulot, c'était de justement continuer à sensibiliser les autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de partir et de leur raconter notre expérience et essayer de les sensibiliser un maximum.
Est-ce que ça vous semble être une chose difficile à tenir que de devoir transmettre aux autres ce que vous avez vu?
Ben, c'est pas difficile à tenir parce que, bon, on est deux ou trois du voyage à vraiment s'engager après, justement, à vouloir faire des diaporamas, des commentaires, la brochure et tout ça. Mais ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne méthode, le bon moyen pour essayer de faire passer quelque chose aux autres jeunes. Parce que nous, avant le voyage, on a eu une préparation, des séances où on est venu nous parler des différents problèmes du Brésil. Mais c'est vrai que en ayant été au Brésil, on s'est rendu compte que ce qu'on nous avait dit avant, c'était pas forcément perçu à 100%. Et en fait, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse passer un message aux autres jeunes et qu'on essaye de le faire passer à 100%. Et en fait, on cherche une méthode et c'est pas toujours évident, mais je crois que la volonté est là, en tout cas.
Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pour transmettre ce que vous avez vu? Tu parlais de diaporama, ça veut dire quoi?
Actuellement, il y a cette brochure, il y a ce diaporama. Et
cette brochure, passer... peut-être tu ferais mieux d'en parler un petit peu, j'ai abordé tellement peu qu'on ne doit pas se rendre compte de quoi il s'agit.
Alors, c'est des textes des participants qui parlent... Bon, il y a deux parties, en fait. Il y a la partie où on parle de ce qu'on a vécu là-bas, et ensuite, il y a la partie des textes personnels qui est plutôt la réflexion. Alors, bon, il y a pas mal de textes où les participants ont écrit quelque chose. Et le but, c'est bon, de la diffuser et aussi que ça soit utilisé comme instrument pédagogique à l'intérieur de certaines écoles. Alors, bon, on va essayer de promouvoir un peu notre brochure.
Et concrètement, vous arrivez avec votre paquet de brochures à la sortie des écoles et puis vous les vendez? Comment
non,
ça se passe?
On va plutôt vers des professeurs de sciences humaines et on leur demande que, bon, bah, s'ils commandent par l'intermédiaire de la direction de leur collège ou signe d'orientation une vingtaine de brochures. Ça peut être un outil que pendant une heure, une fois, ils arrivent en classe avec leur brochure, ils prennent un texte ou ils lisent comme ça et ensuite ils en discutent. Ça peut être un bon matériel de base pour un sujet du tiers-monde ou du Brésil plus précisément.
Est-ce que vous vous tenez aussi à la disposition des enseignants qui auraient envie de témoignages vivants dans leur classe?
Ah, bah justement, tout à fait. Là, il y a une tournée, on va commencer... prochainement à faire passer dans les écoles, différentes écoles, dans les cycles et dans les collèges, pour présenter notre diaporama, justement.
J'allais me lancer dans une grande phrase. Oui, je lis par exemple dans ce qu'écrit Tariq Ramadan, qui était une des personnes qui voyageait avec vous et qui est un des personnages forts de l'association Coup de main, qu'il pensait que ça devait être un effort pour vous de mieux comprendre la réalité brésilienne. Est-ce que vous avez eu la sensation que justement vous deviez faire un effort pour comprendre? Ou est-ce que ça venait comme ça facilement parce que le contact est chaleureux, on découvre des choses qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où justement il faut faire quand même un petit passage par rapport à notre petite vie à nous et puis comprendre ce qui se passe chez eux?
Bien sûr qu'il y a un effort à faire puisqu'on arrive là-bas, on n'a pas la même perception, on n'a pas la même culture. Et on nous parle, puis bon, bah, les gens ne connaissent pas très bien notre culture non plus, donc c'est difficile. Des fois, on n'était pas tout le temps sur la même longueur d'onde, mais l'effort est situé à ce niveau. Et puis bon, bah, il me semble qu'on l'a fait et que le message, en tout cas avec les contacts qu'on a eus sur place, c'était excellent. Alors, le message a bien passé. Je pense que sur ce plan, on a fait l'effort suffisant.
Pas trop de fossés d'incompréhension entre eux et vous?
Un peu quand même, avec surtout les adultes, parce que dans l'école, là, on est passé près de Récif. C'est sûr que la majorité étaient des enfants d'une dizaine d'années. Alors là, c'est, au point de vue discussion, ça n'allait pas très, très loin, mais ce n'était pas vraiment un fossé. Mais c'est vrai qu'avec les plus grands, enfin, personnellement, j'ai regretté de ne pas savoir plus de portugais.
L'obstacle, c'était la langue, ce n'était pas les différences
de
vécu.
Non, je pense que c'était plutôt...
Je crois que quand on est avec un autre jeune ou qui voit qu'on s'intéresse à lui et que lui, par la même occasion, il s'intéresse à nous, en tant que personne, de personne à personne, il n'y a pas de fossé, je crois. C'est vrai que la langue, c'était un peu l'obstacle, mais si on a envie de faire passer quelque chose, on arrive... Ouais.
Tout à fait, l'effort il a été fait de part et d'autre, c'est-à-dire que nous on a fait un effort pour s'adapter aux Brésiliens et je crois que eux aussi on fait un effort pour s'adapter à nous, parce que malgré tout on a toujours, même si on essaie de gommer un maximum, il reste des différences. Bon, ça a été fait des deux côtés.
D'accord. Alors c'est vous qui avez choisi la musique, ils ont insisté pour que ce soit eux qui puissent amener leur musique, hein, pas mes vieilles musiques brésiliennes, mais celles qu'ils ont découvert eux dans le cours de leur voyage. Alors Emmanuel, c'est toi qui nous propose le premier morceau.
Un petit truc, je ne sais pas si en fait moi je préfère les nouvelles musiques brésiliennes, je crois plutôt que je préfère les vieilles, parce que bon, tout à l'heure on verra un autre morceau qui est vraiment assez commercial. Et justement en Europe maintenant ça vient un peu la vague brésilienne, c'est vraiment... J'aime pas du tout cette musique, quoi. Je trouve que c'est un peu genre la lambada et tout ça. C'est un peu...
Il semblerait que ce soit pas vraiment très brésilien,
c'est
la lambada.
En plus, c'est vraiment très commercial.
C'est pour ça que je dis ça.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes là tout de suite, Emmanuel?
Là, ce qu'on va écouter, c'est une chanson de Djalma Oliveira. Donc acheté sur place.
Made in Brazil direct.
Eu sou bacana, diga que me ama, diga que me ama. Não deixe o nosso amor se apagar junto com a chama. Diga que me ama, diga que me ama. Olha o expresso do Oriente, já não vende mais o sonho. A menina descontente, faz um riso tão tristonho. A fragata da canoa sai pra outro lugar. Quando chega na Gamboa, marinheiro quer amar. Menina bonita, você não. Se você me deixar, como é que eu vou viver? Olha o Coimbra Pedra chegando aí, galera. Menina bonita, você não me engana. Diga que me ama, diga que me ama.
Menina bonita, mais oui, il y a des jolies filles au Brésil aussi, hein, bien sûr. Alors, on est toujours sur Ménage et en compagnie d'Emmanuel, Olivia et Christophe, nos trois voyageurs du Brésil, qui viennent nous raconter leur découverte du peuple brésilien et de la vie brésilienne cet été dans le cadre de l'association Coup de Main. Si jamais vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas, téléphonez au 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 00 33 si vous appelez depuis le restant de la Romandie où nos ondes agitées vous atteignent. Alors, quel était le parcours de votre voyage? Rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, on a vu un petit peu quelles impressions globales vous aviez. Mais maintenant, on a envie de savoir bien sûr où vous êtes allé et quelles découvertes et quelles rencontres vous avez fait. Alors, qui est-ce qui nous dit un petit peu d'abord juste un petit parcours sur la carte? Quels sont les principaux lieux où vous êtes allé pendant ce mois?
Bon, alors d'abord, on a débarqué à Rio. Il faisait froid. Ça nous a tous beaucoup étonnés. On a pris un minibus. On est allé... derrière Rio, en fait, c'est un peu la banlieue, c'est à 1h30 en voiture du centre. Et en fait, on a été dans une communauté pendant 6 jours, la communauté de Nova Iguaçu. Bon, je trace en gros.
Oui, pour l'instant, on fait juste un trajet sur la carte, hein.
Après,
on y reviendra.
On a passé 10 jours dans une école à 200 km de Recife, à Saint-Joachim. Ensuite, on est allé 4 jours à Recife. Après, on est allé 4 jours à Bahia. Après, on est allé 2 jours à Brasilia et après encore 2 jours à Rio.
C'était assez la course, donc, si je comprends bien, hein, parce que c'est quand même entre Rio et Recife, c'est déjà 500 kilomètres. Ensuite, pour retourner, aller à Brasilia, c'est 500 autres kilomètres et ainsi de suite. C'est beaucoup, beaucoup de voyages et de déplacements.
Oui, on a eu l'occasion de tester les lignes intérieures brésiliennes. C'était assez pittoresque.
D'aviation ?
Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est bien amusé.
On ne citera pas le nom de la compagnie.
Mais ça ne vous a pas paru être trop une course comme ça ? Vous avez vu beaucoup de choses quand même dans ce mois. Hein.
Ouais, c'est clair que, bon, arrivé à la deuxième partie du voyage, donc plutôt le tour un peu du nord-est du Brésil. Ben, c'est clair qu'on ne voyait pas le temps passer, quoi. Et ces 2 semaines, elles ont passé comme 5 jours, quoi, en fait. Mais dans l'école, on a eu aussi un bref aperçu de vivre avec ses enfants. Parce que dans cette école, il y a des enfants de la rue.
Donc c'est à Saint-Joachim. Voilà, donc qui était en fait un peu l'objectif principal de votre voyage. C'était d'aller comprendre comment vivaient les enfants qu'on retrouve, hélas, souvent dans la rue.
Mais bon, là aussi, on est resté 10 jours dans cette école. Mais quand on était bien intégré, qu'on arrivait, qu'on commençait à avoir vraiment un rapport d'amitié avec ses enfants, eh ben, on devait partir, quoi. Mais c'est clair que ce genre de voyage, de toute façon, c'est pour donner un aperçu général. Et je pense que les jeunes qui qui ont été très motivés, enfin, que ça leur a plu, que ça les a intéressés et qui ont envie de continuer plus loin, retourneront certainement dans l'école, passer plusieurs mois, plusieurs semaines.
Alors on va parler tout à l'heure de ce que vous avez fait dans cette école, est-ce que vous avez pu partager avec ces enfants et du problème, pourquoi ces enfants se retrouvent dans cette école-là. Mais d'abord, vous avez vécu quelques jours, comme tu l'as dit, à Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, c'est une, effectivement une banlieue de Rio, mais où vous avez, qui est quand même pas n'importe quel lieu, c'est une communauté comme on ne trouve absolument pas chez nous.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un multirun, c'est-à-dire que c'est une occupation de terre. Les gens sont arrivés, c'est des gens qui étaient pour la plupart paysans avant, ou qui habitaient à la ville, mais enfin qui ne trouvaient pas de place en ville, et qui sont arrivés, sont installés, ont occupé ces terres. Ils sont organisés en communauté, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est le système communautaire. Alors ils s'organisent, la communauté délimite des terrains, tous de même surface, superficie, et ils se débrouillent, ils ont une fabrique de briques, ils construisent leur maison, ils tirent des canalisations d'eau, l'électricité, et ils ont un camion, enfin bref, ils s'organisent, et pour finir, ils arrivent à faire une petite ville, enfin vraiment, c'est tout cet esprit de communauté qui en fait nous était assez inconnu avant le départ, puis qui s'est révélé sur place.
Quel rapport ils ont avec les autorités quand ils occupent, ils ne sont pas embêtés par la police, on ne menace pas de les déloger,
si,
etc.
Lorsqu'on était donc, dans cette communauté, un paysan venait de se faire chasser de ses terres par le propriétaire, et nous on l'a aidé à déménager toutes ses affaires, sa maison, dans un plus loin, quoi, sur une autre colline. Et là, il a rebâti une nouvelle maison. Et ça veut bien dire que en fait, les paysans, ils sont sur un bout de terrain, mais si le propriétaire veut les chasser, il les chassera. Et s'il veut couper ses plantations, il coupera tout, quoi. Donc, le paysan n'a pas de pouvoir par rapport à eux. Il peut rien dire.
Mais cette occupation de la terre, c'est semble-t-il une chose qui existe dans beaucoup d'endroits au Brésil. C'est une des luttes que mènent les gens sans terre, sans logement. Et on le retrouve un peu partout au Brésil
tout
aussi.
Tout à fait, c'est une nécessité. C'est où vous occupez un bout de terre, où vous êtes dans une ville, dans la rue. Et si vous n'avez pas d'autres possibilités, la rue, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous n'avez absolument rien. Ceux qui sont dans la rue, ils ont tout juste de quoi, un carton pour dormir dessous la nuit, c'est tout, pas plus. Alors que là, dans les occupations de terre, ils ont leur maison. En principe, les gens, plus ou moins, ont un travail. Et c'est donc un niveau de vie différent, qui est quand même, par rapport à d'autres personnes, qui est quand même bon. Et ils luttent pour l'améliorer de plus en plus.
Et je crois que c'est là qu'on a pu déjà voir, comme premier contact avec des Brésiliens, une force qui passe entre eux, et s'ils voient que quelque chose ne va pas, ils s'entraident, et c'est une unité comme ça.
Tu voulais dire, Emmanuel ?
Non, c'est sûr qu'ils sont jamais en sécurité, donc ils ne sont jamais certains de pouvoir rester à l'endroit. D'un jour à l'autre, ils peuvent être expulsés d'une manière assez
violente. En plus, la violence est partout. La violence est continuelle. Quand les propriétaires de terrain arrivent, c'est toujours avec la police qui, en fait, sont des militaires. Il y a souvent des morts. Ensuite, il y a le trafic de drogue qui est toujours assez présent. Donc, la police est de nouveau là en prétextant le trafic de drogue. Et ils interviennent un peu partout. Enfin, ces personnes qui vivent sont constamment sous pression. En plus, maintenant, ça se démocratise. Mais quand c'était sous la dictature, c'était encore pire. Il y avait des révoltes d'étudiants qui étaient très sévèrement réprimées. Alors, c'est malgré tout, on sent que ces gens, ils luttent, mais ils ont été oppressés.
Mais même si, pour parler d'occupation de terre, même si peut-être aujourd'hui le gouvernement n'envoie plus sa police contre les gens, il se trouve qu'il y a d'autres gens qui ont pris le relais. On peut rappeler que Chico Mendes s'est fait assassiner alors qu'il luttait aussi contre la liberté des terres, pour obtenir des terres tout à fait un autre bout. C'est pas Rio, c'est en Amazonie, mais qu'il se fait assassiner lâchement par des troupes privées, mais contre qui le gouvernement ne dit pas grand chose non plus, même si c'est plus qu'ils le font.
Ouais, mais c'est bien là, excuse-moi de l'expression, mais que je peux dire que vraiment le gouvernement au Brésil, c'est pourri, quoi. Il y a des choses qui vont pas et qu'il faut que ça change, quoi. Et nous, on est allé voir des gens qui se battent pour que ça change.
Et vous vous êtes rendu compte de cette pourriture du gouvernement, pour reprendre tes mots.
On a eu un bref aperçu, parce que lorsqu'on est allé à Brasilia, donc la capitale du Brésil, on a pu assister à une séance au Parlement et une séance au Sénat. Alors, brèvement, comme ça, pour décrire, il y avait des gens qui parlaient, enfin une personne qui parlait et d'autres qui écoutaient. Et c'était vraiment des vieux gros Brésiliens affalés sur leurs chaises et qui avaient l'air complètement ailleurs, quoi. Ils n'avaient pas l'air d'être vraiment attentifs. Ils étaient là sur leurs chaises, un peu prélassés. Ils écoutaient plus ou moins.
Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'ils parlent de problèmes très graves et que. On voyait par exemple le président qui était à sa table, donc devant tous les autres, qui ronflait à moitié sur son fauteuil, qui lançait des coups de fil, qui buvait un petit truc, pendant que les autres, une personne lui parlait, il n'écoutait absolument pas. Et c'est incroyable quand on pense des problèmes graves dont ils parlent, et que même entre eux, je veux dire, il y avait une personne qui parlait, les autres sont en petit groupe en train d'avoir leur discussion personnelle.
Cela dit, ça existe aussi à Genève. Hein. Si vous êtes allé au Grand Conseil Genevois.
Oui, justement, sur place, donc, on discutait avec un des accompagnants qui était aussi complètement horrifié. Il nous disait, mais à Genève, c'est la même chose. Simplement, à Genève, on n'a peut-être pas les mêmes problèmes.
Les mêmes urgences.
Mmh. Ouais, voilà, bon, je crois que le problème aussi de cette classe politique, c'est que c'est l'aristocratie. C'est tous des grands propriétaires. Enfin, ça s'est bien vu pour... Il y a 3-4 ans, lorsqu'il y a eu ce programme de réforme agraire, et bon, bah, les propriétaires ont dit non, et la réforme n'a pas passé. Enfin, elle a passé, elle était considérablement modifiée, ce qui fait qu'elle n'avait plus aucun poids. Mmh. Alors, il y a toujours cette oligarchie en place, et bon, bah, faut espérer que ça change, mais comment ?
D'une cassette du carnaval 88 de Rio.
Vous n'aurez pas vécu, hein, mais ça fait rien, vous retournerez.
Mais je ne sais pas si vraiment j'aurais envie d'aller au carnaval. Je ne sais pas.
Et pourtant, vous avez vécu avec Mangueira, cette favela où il y a une des plus grandes écoles de samba.
Ouais. D'ailleurs, on a pu aller à une de leurs soirées. C'était vraiment magnifique. Toute une salle était décorée en vert et en rose. Puis on a pu danser un peu la samba.
Alors parlons maintenant de cette école de San Joaquim, qui était donc un des objectifs principaux de votre voyage. Cette école sont réunis des enfants qui d'habitude traînent dans la rue, si je puis dire, simplifiant la question. Vous pouvez nous en expliquer un petit peu mieux l'histoire.
Bon, dans cette école, il y a des enfants orphelins, donc qui n'ont plus de parents. Il y a aussi des enfants de la rue, donc qui sont dans la rue, qui vivent, qui volent, qui dorment. Et les enfants... ça c'était des enfants dans la rue et des enfants de la rue qui dorment quand même chez leurs parents mais qui vont dans la rue pour
trouver des petits boulots quelconques, ramener un peu d'argent à la maison de soeur, quoi.
Alors tout ça ensemble, ça fait à peu près 130 enfants, garçons dans cette école et une femme, Maria José Pontes, qui a remis cette école sur pied. Parce que quand elle est venue dans cette école, tout était un peu sans dessus-dessous. Et je dois dire qu'on a pu voir le travail qu'elle a fait. C'est vraiment bien. C'est bien fait.
Il faut dire que ces enfants ont la chance d'avoir des ateliers, une dizaine d'ateliers, qui, d'une certaine manière, les forment en métier. Il y a des ateliers très divers. Ça va de la boulangerie à la typographie, en passant par la couture, la construction de balais. L'agriculture, enfin c'est tout à fait divers et ils comptent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'étant donné que les enfants qui sont dans cette école sont libres de partir quand ils le veulent, s'ils restent, c'est bien la preuve qu'ils ont envie de faire quelque chose. et il compte beaucoup sur ses ateliers pour, en sortant, avoir un métier. D'autant plus que Maria José trouve des personnes qui sont d'accord les engager à la sortie de leur école, c'est-à-dire vers l'âge de 18 ans. Et vraiment, on a bien vu qu'ils comptaient énormément sur ce qu'ils apprenaient à l'école pour ensuite avoir une vie, un métier.
C'est un problème gravissime que celui des enfants de la rue au Brésil. On en parle beaucoup parce qu'entre autres, on sait que chaque semaine, chaque jour, chaque mois, des centaines d'enfants se font même assassiner dans les rues par des gens qui trouvent que ça ne peut plus durer, ces voyous qui traînent dans les rues au Brésil, parce que c'est pour ça qu'ils sont attaqués.
Tout à fait. Pour peut-être donner un chiffre, à Recife, il y a entre 100 et 150 enfants qui sont tués chaque mois par la police. Ils appellent ça nettoyage, enfin.
En tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'urgent, quoi. Là. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas passer dessus. C'est vraiment trop important.
Ils ont tous des marques au visage.
C'est grave, des enfants, hein. des jeunes enfants que la plupart ont une dizaine d'années, qui ont eu des vies, mais que n'importe quel adulte de Suisse, par exemple, n'aura jamais eu. Ils ont tout vécu à peine 10 ans, la violence, tout. Ils sont seuls, ils ont personne, vraiment, ils n'ont pas de...
Puis ça, comment ils vous le transmettent? Vous avez échangé avec eux? Un quotidien, parce que vous êtes resté longtemps
dans cette école, on n'a pas tellement parlé des problèmes qu'ils avaient eu avant, justement, par rapport à la violence et tout ça, parce que, on a eu une journée où on a fait une discussion avec eux, enfin avec certains d'entre eux, et puis en fait, je sais pas, on n'a pas vraiment parlé de ça, quoi. De leur expérience dans la rue. En fait, on a un peu laissé ça de côté.
Disons que c'était à eux d'en parler s'ils voulaient.
Voilà. Et puis on s'est rendu compte qu'ils ne le faisaient pas vraiment spontanément comme ça.
Est-ce qu'ils étaient intrigués par votre mode de vie à vous? Est-ce qu'ils vous ont posé de questions? Qu'est-ce que vous faites à l'école? Comment c'est votre vie famille, etc.? Ils sont intrigués de savoir comment vous vivez?
Non, pas tellement. Je crois qu'ils étaient simplement contents d'avoir un contact, aussi simple soit-il, avec des personnes étrangères. Et je crois que c'est là que c'était le plus prolifique, parce qu'on est resté 10 jours et puis on a eu des contacts vraiment 24 heures sur 24 pratiquement avec ces enfants. Et c'est ça qui, à mon avis, leur a apporté le plus, qui nous a apporté beaucoup aussi. Et je crois que c'est vraiment l'aspect principal de notre passage à l'école. Bon, on a aussi fait un petit boulot, parce que l'école est en train de se faire rénover. Mais c'était pas vraiment le... On était là, on a fait un boulot, mais c'était d'abord vivre avec ces enfants.
Après San Joaquim, vous êtes donc parti à Recife. Là, à Recife, vous avez rencontré de nos grandes amies, parce qu'il faut bien le dire, le SOS Corpo de Recife vient nous rendre visite presque chaque mois de septembre, et nous avons des nouvelles d'elle chaque mois de septembre. Cette année, ça n'a pas manqué. Nous avons reçu Bethagne. Je ne sais pas si vous avez rencontré Bethagne à Recife. Jusque-là, nous avons rencontré Gigi, et je crois que c'est plutôt à Gigi que vous avez parlé en allant à SOS. Alors, vous avez découvert un peu par son intermédiaire la situation des femmes au Brésil, ou vous les avez rencontrées trop brièvement, je crois, un petit peu.
C'était assez bref.
C'était assez bref, et puis elle nous a fait un exposé très complet sur ce qui se passait au Brésil. On a pu poser des questions, mais c'est vrai que ça a été un peu vite comme ça, mais on a quand même eu un exposé bien...
Un condensé.
Condensé, voilà.
Mais ça, c'était plutôt la forme d'un exposé, donc c'est pas une rencontre avec les gens concernés.
Non, disons qu'il y a eu dans l'entretien une partie sous l'exposé, mais ensuite il y a eu la discussion, question-réponse, discussion.
Mais vous n'avez pas eu le temps d'aller, par exemple, rencontrer des femmes avec lesquelles elles travaillent, etc.
Ça aurait été vraiment intéressant, mais c'est vrai que la deuxième partie du voyage, tout était un peu tel jour on a ça, telle heure ça, après vite ça. C'était un peu...
Et puis surtout les 4 jours à Recife, là, chaque jour on avait une ou deux rencontres. Donc c'est vrai que c'était un peu presque du bourrage de crâne sur le moment, puis c'était à nous à voir un peu après. Mais
je crois quand même qu'on a pu bien poser les questions qu'on voulait. Et c'est vrai que si on avait eu la chance de rencontrer des femmes brésiliennes de SOS Corpo, ça aurait été très intéressant. Mais voilà.
La prochaine fois.
Il y avait encore plein de choses à découvrir. Brasilia par exemple, Bahia aussi. Ces étapes, elles ont représenté quelque chose. Vous avez un souvenir particulier? Je crois que, par exemple, toi Olivia, tu as trouvé que... Après San Joaquim, qui était censé être le but principal de votre voyage, tu as encore eu l'impression de vivre des tas de choses après, ce qui était peut-être un peu différent de ton premier voyage au Sénégal, où la deuxième partie, c'était un peu moins riche que la première.
Cette deuxième partie, elle a été préparée par les organisateurs avant, et on a vraiment pu rencontrer le maximum de gens du Brésil qui parlent et des problèmes du Brésil, et ce sont des gens qui se battent pour qu'il n'y ait plus ces problèmes. Et au Sénégal, c'est vrai que la deuxième partie du voyage n'avait pas été préparée et on a un peu vagabondé de ci et de là. Mais au Brésil, vraiment, c'était une deuxième partie complète, quoi. On a pu voir les gens et discuter avec eux.
Christophe, tu as écrit dans cette brochure un article sur la vie politique brésilienne. Et déjà à cette époque devaient se préparer très activement les élections présidentielles dont le peuple brésilien vient de vivre une première étape ce dernier 15 novembre. Est-ce que tu as suivi depuis que tu es rentré ces élections? Qu'est-ce qu'on vous avait dit avant? Qu'est-ce que tu suis maintenant?
Oui, bien sûr, j'ai essayé de suivre ces élections, même qu'à mon avis, on ne trouve pas dans la presse assez d'informations.
C'est moins qu'on puisse dire. Très peu d'informations, oui.
De ces élections. Et bon, disons que le résultat, bon, premier tour a passé le candidat Collor, qui est donc, on pouvait s'y attendre, il était complètement médiatisé. Il a un programme qui repose principalement sur la corruption dans le gouvernement, mais apparemment, il n'est pas prêt à faire quelque chose, puisqu'il était, il me semble, gouverneur d'un État avant que, bon, dans son État, il n'a pas fait grand-chose non plus. Donc, il est plutôt soutenu par la population tout simplement parce qu'il est médiatisé, qu'il est nouveau, qu'il est jeune, qu'il n'a pas encore mouillé dans trop de scandales et puis que...
Qui peut faire beaucoup de promesses.
Voilà. Et l'autre personne qui a passé le premier tour, c'est Lula, candidat de gauche.
Parti des travailleurs,
voilà. Alors là, c'était pour moi une grande surprise puisque quand on y était, il était crédité de 9% et personne ne pensait qu'il allait passer le premier tour. Enfin, on ne nous en a pas tellement parlé. On nous disait que c'était vraiment le candidat le plus progressiste, mais que bon, il ne fallait pas se faire d'illusions. Et malgré tout, il a passé. Il a eu, je crois, 17%. Alors là, c'était une grande surprise. C'est vrai qu'il a vraiment beaucoup de choses à amener au Brésil, mais que malheureusement, il ne doit pas se faire élire, puis ça serait un peu la même chose qu'Allende au Chili. C'est un peu ce qu'on nous a expliqué. Donc, il est encore trop réformiste pour accéder au gouvernement. Et c'est un peu dommage, mais c'est vrai que la transition à la démocratie doit se faire tranquillement. Comme j'ai dit avant, il y a encore toute une oligarchie capitaliste au pouvoir et que, bon, on ne peut pas changer tout ça d'un jour à l'autre.
Voilà, alors il faut suivre les résultats du deuxième tour des élections, on verra qui est-ce qui est élu, mais effectivement, c'était quand même un grand événement, ça faisait 29 ans, puisque les dernières élections ont eu lieu en 1960, la dictature ayant pris le pouvoir en 1964, les Brésiliens n'ont plus jamais élu de président depuis ce moment-là, donc c'est un grand événement pour le peuple brésilien d'aller pouvoir élire de façon directe leur président. Alors peut-être en conclusion, parce qu'hélas le temps file à une vitesse épouvantable, j'aimerais juste que vous me disiez si vous avez l'impression que aussi bien les Brésiliens que vous avez rencontrés que vous ont tiré parti, c'est un mot un petit peu économique si je puis dire, mais de cette rencontre. Est-ce que vous avez l'impression qu'eux aussi y ont gagné autant que vous avez découvert?
Oui, je commencerai pas à répondre, mais je pense que l'échange il s'est fait vraiment au niveau des deux civilisations, si on peut dire, puisque je pense que toute rencontre qui se fait sans qu'il y ait une prédominance quelconque entre les deux civilisations, les deux cultures, se fait de manière positive et c'est ce qui s'est passé.
Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et en tout cas, pour ma part, ça me donne, après ce voyage au Sénégal et après le voyage au Brésil, ça renchérit ma force intérieure et j'ai envie vraiment de faire passer un message aux autres jeunes ou même aux adultes. Hein.
Oui, ils en ont besoin aussi. Emmanuel?
Oui, moi, disons qu'on a essayé de garder un maximum de contacts là-bas. On a des adresses et tout pour écrire. On a déjà reçu quelques lettres là. Et puis on voit vraiment que pour eux, ça a été quelque chose d'important, quoi. Dans ce qu'ils nous écrivent, ils ont vraiment trouvé des amis, quoi.
Et je vous remercie d'être venu. Christophe, tu nous présentes vite la dernière musique, parce que ce n'est pas une musique brésilienne, c'est un événement un peu spécial.
Tout à fait, oui, c'est des copains d'école. Alors, ils sont quatre, ça s'appelle The Ducks, et leur chanson s'appelle Big Spin Blues.
Alors, un peu de pub pour les Ducks.